À l'écoute de Radio France Internationale, il est 11h à Paris, 9h en temps universel.
Sophie Pouzrat.
À la une de l'actualité, Benjamin Netanyahou se dit convaincu de pouvoir ramener les otages retenus par le Hamas sans céder, je cite, au diktat du mouvement palestinien. Une prise de parole contestée dans l'État hébreu par les familles des otages qui appellent le chef du gouvernement à passer un accord pour libérer leurs proches. Kiev accuse Moscou de ne pas respecter son propre cessez-le-feu en vigueur pour Pâques. Volodymyr Zelensky évoque des attaques russes sur plusieurs endroits du front et une alerte anti-aérienne a retenti dans la capitale ukrainienne. À la une, également, une centaine de prisonniers se sont évadés d'une prison au Tchad. Des affrontements ont eu lieu entre les policiers et des détenus. On y reviendra tout à l'heure dans ce journal. En France, c'est reparti pour un tour pour Marine Tondelier. La chef des écologistes a été réélue à la tête du parti dès le premier tour. On démarre ce journal avec l'offensive israélienne qui se poursuit à Gaza. Des nouveaux bombardements ont fait une cinquantaine de morts hier, selon la défense civile palestinienne, qui précise que ce bilan pourrait encore grimper. Du côté d'Israël, prise de parole contestée de Benjamin Netanyahou, le chef du gouvernement fait face aux pressions de plus en plus fortes. La guerre contre le Hamas est dans une phase décisive, se défend Benjamin Netanyahou, alors que les familles d'otages réclament un accord pour obtenir le retour des Israéliens retenus à Gaza. La réponse du Premier ministre, elle, est claire. Il se dit convaincu de pouvoir ramener les otages encore aux mains du Hamas sans, je cite, céder aux diktats du mouvement islamiste palestinien. À Jérusalem, la correspondance de Michel Paul.
Le Premier ministre israélien attaque ceux qui en Israël demandent la fin de la guerre. Pour obtenir la libération des otages, ils font le jeu du Hamas, dit Benjamin Netanyahou. Je ne céderai pas aux assassins, proclame-t-il dans une déclaration vidéo préenregistrée.
En tant que Premier ministre, je ne capitule pas. Nous ne mettrons pas fin à cette guerre de rédemption avant de détruire le Hamas à Gaza, avant de ramener tous les otages et avant de garantir que la bande de Gaza ne présente plus de danger pour la sécurité d'Israël.
Le Hamas n'est pas stupide, ils veulent des garanties internationales contraignantes qui empêcheraient la reprise de la guerre, souligne encore Netanyahou, des propos qui ont provoqué la colère du Forum des familles d'otages et Nav Zangoke, la mère de Matan, captif à Gaza depuis le 7 octobre 2023.
Netanyahou refuse de terminer la guerre pour des raisons personnelles. Il enterre les otages dans les tunnels. Netanyahou, les familles veulent des réponses, le peuple veut des réponses.
Et le Premier ministre israélien réaffirme également sa position sur l'Iran. Nous les empêcherons d'obtenir une arme nucléaire, souligne-t-il. Michel Paul, Jérusalem, RFI.
L'Iran et les États-Unis qui se sont quittés pour se retrouver après des pourparlers hier à Rome sur le nucléaire iranien. Le rendez-vous est pris. Le troisième volet de discussion aura lieu à Oman samedi prochain. Le chef de la diplomatie iranienne a assuré que les négociations avançaient et Donald Trump, de son côté, évoque de très bons progrès sur le dossier. Donald Trump qui s'impatiente en revanche sur un autre dossier, celui de la guerre en Ukraine, et qui menace de jeter l'éponge si les négociations de paix n'arrivent pas vite à un résultat. Sur le terrain, côté russe, Vladimir Poutine a annoncé hier un cessez-le-feu à l'occasion des fêtes de Pâques qui doit durer jusqu'à minuit. Une pause dans les combats à peine annoncés et déjà dénoncés par Kiev. Volodymyr Zelensky accuse Moscou de ne pas respecter ce cessez-le-feu. Le président ukrainien dénonce des assauts russes sur plusieurs secteurs du front. Une alerte antiaérienne a retenti à Kiev et le gouverneur de la région de Kherson évoque un mort dans des attaques de drones. Malgré tout, Volodymyr Zelensky propose d'étendre cette trêve de 30 heures au-delà de ce soir. Pour le général Jérôme Pellistrandi, rédacteur en chef de la revue Défense Nationale, l'annonce symbolique de cette trêve de Pâques, elle arrive en réaction aux déclarations du président américain Donald Trump. Écoutez.
En quelque sorte, envoyer ce message, entre guillemets, subliminal à Donald Trump, en disant, voyez, je cite « bonne volonté ». Et c'est à vous de forcer les Ukrainiens en quelque sorte à négocier. Il faudra voir la réaction de la Maison Blanche, la réaction politique, et puis sur le terrain ukrainien où pour les soldats, ce sera une trêve de 24 heures qui de toute façon sera la bienvenue, même si les combats reprennent le lendemain.
Parce que cette trêve intervient à un moment où les fameuses négociations voulues par les États-Unis sont totalement dans l'impasse.
Oui, on voit bien que cela ne progresse pas du tout, que les négociations voulues par Donald Trump, qui devaient se faire très rapidement avec des deals donc avantageux, patinent. Et donc, là aussi, cette diplomatie américaine se retrouve confrontée à la réalité d'une Russie extrêmement sûre de ses positions, très agressive, et qui arrive en quelque sorte à bien manipuler la diplomatie américaine.
Propos recueillis par Daniel Valo. Et cette trêve très précaire entre la Russie et l'Ukraine a aussi permis un grand échange de prisonniers entre les deux pays, 240 de chaque côté, notamment des soldats blessés nécessitant des soins d'urgence. Des milliers d'Américains étaient dans les rues des États-Unis ce samedi pour dénoncer, je cite, la tyrannie de Donald Trump, selon les pancartes brandies lors de plus de 400 rassemblements à travers tout le pays. Et dans le viseur des manifestants, les mesures anti-immigration de la Maison-Blanche, alors que la Cour suprême américaine vient justement de suspendre les expulsions de migrants vénézuéliens soupçonnés d'appartenir à un gang criminel. Séoul annonce de prochaines négociations avec Washington. Le ministère du Commerce sud-coréen espère abaisser les droits de douane dits réciproques de 25% que le président Donald Trump a annoncé pour le pays et qu'il a depuis suspendu pour 90 jours. Des consultations commerciales auront donc lieu la semaine prochaine à Washington. Je vous en parlais dans les titres. Une centaine de prisonniers se sont évadés de la prison de Mongo, dans le centre du Tchad. Ça s'est passé vendredi soir. Des affrontements et des tirs ont éclaté entre des policiers et certains prisonniers. Il y aurait des morts, mais on ne connaît pour l'instant pas le nombre exact. Paul Largerie.
Les premiers signes de soulèvement ont commencé aux alentours de 21h20. Selon une source sur place contactée par l'AFP, les prisonniers s'en sont d'abord pris au bureau du régisseur de la prison avant de s'emparer des armes qui s'y trouvaient. Des échanges de tirs ont alors eu lieu entre les gardiens et certains mutins. Alerté, le gouverneur de la province, Abdoulaye Ibrahim Siam, s'est aussitôt rendu sur les lieux. Selon de nombreux médias, il fait partie des trois personnes blessées par balle lors de l'altercation. D'après un bilan provisoire donné par le site d'information Tchad Info, 4 personnes sont mortes lors des affrontements et 132 en ont profité pour prendre la fuite. Tous des prisonniers de droit commun, a précisé un responsable administratif dans la ville de Mongo. Un bilan encore mitigé, nous prévient le ministre tchadien de la Justice, Youssouf Tom, qui a demandé à ce que les chiffres soient vérifiés avant de prendre la parole. Selon le ministre, le procureur de la localité s'est rendu sur place pour s'assurer de l'identité des prisonniers encore présents, afin de pouvoir établir une liste claire des personnes s'étant évadées et les raisons de la mutinerie.
Paul Largerie. On l'a déjà évoqué plus haut dans ce journal, ce week-end, la communauté catholique célèbre la fête de Pâques, la plus importante de l'année pour les croyants. Et pour l'occasion, des milliers de fidèles sont rassemblés aujourd'hui au Vatican, où ils espèrent voir le pape François. Le chef de l'église catholique, âgé de 88 ans, qui est en convalescence après une grave pneumonie. Il devrait apparaître au balcon de la basilique Saint-Pierre pour donner sa traditionnelle bénédiction, Urbi et Orbi, c'est-à-dire à la ville et au monde, retransmise en Mondiovision. Mais l'incertitude continue de planer sur sa participation. Le service de presse du Saint-Siège a fait savoir qu'il tenait bien à être présent, sans confirmer sa présence, affirmant qu'elle dépendrait de son état de santé. Le visage des écologistes ne change pas en France. Marine Tondelier a été réélue dès le premier tour à son poste de secrétaire nationale du parti. Les 14 000 adhérents du parti étaient invités à voter cette semaine. Et l'écologiste a donc obtenu 73% des suffrages, Victorien Villaume.
Un tel score avec trois concurrents en face, assez rare dans la vie d'un parti, se félicite Marine Tondelier, qui a donc largement convaincu malgré des critiques en interne. La concurrence lui reprochait l'échec cinglant aux européennes et la récente modification des règles du scrutin.
C'est pas moi qui voulais changer les statuts. C'était un débat persistant dans le parti depuis 10 ans. Moi, j'ai mené à bien un projet qu'on m'avait demandé. Et c'est pas moi non plus qui les ai écrits. Ils ont été écrits au consensus avec des gens de diverses sensibilités.
Marine Tondelier a désormais en ligne de mire la convention d'investiture des écologistes les 26 et 27 avril prochains.
Si vous attendez des scoops politiques de ma part, eh ben, il faut revenir le 26 parce que c'est là qu'auront lieu mes premières annonces en tant que secrétaire nationale.
La secrétaire nationale des écologistes sera notamment attendue au tournant sur la stratégie à la présidence de 2027, une primaire est-elle indispensable? Peut-elle se faire sans Jean-Luc Mélenchon? Et sur la stratégie des municipales de l'an prochain, on la connaît déjà en partie, revendiquée de travailler avec tout le monde à gauche.
Les explications de Victorien Villaume. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Il est 11h et presque 10 minutes à Paris, 9h10 en temps universel.